Alors, vous avez réfléchi? C'est le moment, c'est l'instant.
Rien d'autre à faire pour le moment?
Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
C'est pas un scoop? Je suis choqué.
Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités.
Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance.
Ça n'est pas le bon moment, je le redis.
Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
Vous êtes sur Le Moment, média libre et indépendant installé dans le tiers-lieu Césure à Paris, dans le 5e arrondissement.
Alors, Le Moment, parlons-en. Car depuis un moment, justement, au sein du collectif, une question ne cesse de tourner. Comment dire Le Moment autrement? Comment dire avec justesse ce qui se passe, ce qui nous occupe, ce qui nous touche? Et là, vous l'aurez compris, bien sûr, je ne parle pas de l'actu, des news, de l'info. Plutôt que de parler des grands bruits du monde, des grands événements, nous allons nous intéresser aux événements faibles. De ceux que vous n'aurez pas vus à la télé, pas entendus à la radio, pas lus sur X ou TikTok. Pour nous, l'événement faible, c'est celui qui, sans en avoir l'air, nous parle du monde tel qu'il est, nous raconte l'époque telle qu'elle va. Un événement faible, c'est un personnage inspirant, une histoire vécue, une expérience partagée, des incidents qui marquent notre sensibilité au quotidien, nos scoops à nous. Nous faisons donc le pari d'inventer une émission qui ne soit ni journalistique, ni documentaire, ni d'actualité, mais tout cela à la fois, et qui soit surtout un laboratoire du moment. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre ce soir? Eh bien des voix, beaucoup de voix. Des voix qui nous viennent d'ailleurs, des accents qui roulent, des langues qui tanguent, des histoires qui nous embarquent. Ces voix, ce sont celles du collectif du moment. Les voix de Danae, de Marguerite, de Morgane, de Morad, de Jack, de Philippe, de William, de Benjamin, mais aussi toutes celles que nous allons capter.
On fera entendre des expériences des gens d'ici, de la rue d'à côté, des régions, de l'étage en dessous de nos bureaux, ou parfois de beaucoup plus loin. On ira chercher des sujets et surtout, on les laissera émerger de nos rencontres. Le Moment, comme un magazine avec des reportages, des provocations, des sujets de société en plateau, des invités pas prévus parce que pas prévenus mais qui viendront quand même, des chroniques, et on cherche encore, on reste en mouvement.
Yap, il est 18h avec quelques minutes de plus, n'est-ce pas? On est mercredi et c'est le moment de faire un petit tour de table, histoire de savoir qui est là, pourquoi et puis pourquoi faire. Donc Morgane, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles et qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Je ne sais pas, les deux questions. c'est Morgane qui vous parle, réalisatrice et productrice, qui fait pas mal de petites émissions sur Le Moment, des podcasts partout. Et je suis là pour reprendre ma chronique La Trans parle aux Transais. On se retrouve tout à l'heure.
Moi qui rigole, c'est Jack. Moi, c'est je suis là. Tu me vois?
Je suis là. Je te vois, t'es là.
Avec moi, on va parler espace public, on va parler rue, on va parler ville, on va parler l'espace qui nous sépare et qui nous réunit. Voilà, place publique, tout ça. On va essayer de s'intéresser à ça de près.
Nicolas?
Comme tu l'as dit, Nicolas. je m'occupe de la corde du moment et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voir plus haut. Voilà, j'ai utilisé mon temps de parole, donc voilà, il n'y aura plus qu'à remonter l'émission pour. Savoir.
Moi, je m'appelle Marguerite, j'ai dit tout à l'heure. Nous, on va parler du validisme et comment déboulonner tout ça.
C'est ça, il y a eu un petit temps, parce qu'en fait, moi, je suis arrivé avec deux inconnus, parce que c'est des invités qu'on n'avait pas prévus, qui n'étaient pas prévenus, et qui sont là avec nous, ils sont deux. Et vous pouvez vous présenter peut-être,
ouais. Moi, je m'appelle Jean-Marc et je suis le premier invité, donc non prévenu. Et donc, je suis chanteur, narrateur poétique. Voilà.
Et Fanette, enchantée, je suis ravie d'être là, j'ai l'impression de tomber au bon moment, sans avoir été prévenue, et je suis comédienne, metteuse en scène, et voilà, je suis ravie d'être là.
Mais Jean-Marc et Fanette, vous étiez ensemble ou vous connaissiez depuis le début?
On travaille ensemble.
Oui,
ouais,
tout ensemble, à fait, autour de la poésie, notamment pour l'anniversaire du surréalisme, qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer.
D'accord, on se fait squatter par des poètes, ok.
C'est un peu ça.
Lydie, comment tu t'appelles?
Lydie. Et je suis membre du collectif anti-féministe Les Dévalideuses et je suis en situation de handicap moteur.
Merci Lydie. On va pouvoir continuer ton interview tout à l'heure.
J'ai une histoire.
Ah.
Alors, c'est l'histoire d'une copine qui finalement avait un chien
qui était un peu vieux, et à un moment donné, il arrive ce qui arrive, le chien meurt dans son appartement, et là, elle ne sait pas quoi faire, donc elle appelle le vétérinaire.
Et en fait, le vétérinaire ne peut rien pour elle. Il lui dit, venez avec vos chiens, on va pouvoir l'enterrer, etc. Mais simplement, ce qui se passe, c'est qu'elle est seule, elle n'a pas de voiture et elle ne sait pas quoi faire avec ce chien. Donc elle décide, elle a une grande, grande valise, et elle décide de mettre le chien mort dans la valise. Elle descend et elle se dirige vers le métro et elle va pour prendre le métro.
Et alors effectivement, c'est un gros chien, c'était une sorte de Labrador ou de Golden Retriever, donc la valise est très lourde. Et à ce moment-là, au moment où elle arrive dans le métro, il y a un monsieur qui se propose et qui lui dit « Mais dites donc, je vais vous aider à porter votre valise, ça a l'air vraiment très lourd ce que vous avez là-dedans, qu'est-ce que vous avez dans la valise ?» Alors là, évidemment, elle ne va pas dire « un chien mort ». Donc elle dit « Oui, c'est des vieux ordinateurs dont je vais me débarrasser, etc. etc. » Et là, le monsieur, à ce moment-là, lui dit « Je vais vous aider à le porter. » Et donc, à ce moment-là...
Elle lui dit « Non, mais c'est pas la peine. » Il dit « Si, je vais vous aider à le porter. » Et à ce moment-là, les portes du métro s'ouvrent et elle va pour sortir du métro avec la valise. Et le monsieur profite de cet instant pour lui piquer la valise. Et le métro repart.
Et il s'enfuit en courant. Donc, je vous laisse imaginer la tête du gars arrivant chez lui, ouvrant la valise. Donc là, je pense qu'il a été bien puni. C'est la pire punition qui pouvait arriver.
Voilà, mais l'histoire s'est terminée comme ça. Et cette fille, c'est pas ce qu'est devenu la valise, en fait, avec le chien mort.
Et on sait pas ce qu'est devenu le gars non plus, d'ailleurs.
Alors voilà, en fait, c'est ce type d'histoire. Quand on demande à quelqu'un de nous raconter une histoire, il y a toujours une histoire à raconter. Mais quand j'ai raconté cette histoire à quelqu'un, à d'autres personnes, ils m'ont dit « Ah, mais je connais cette histoire. » Je me dis « C'est pas possible, tu peux pas connaître cette histoire. » Donc il y a différentes versions avec un corps d'enfant à l'intérieur. Oh. Enfin, il y a plein de...
légende urbaine.
C'est un peu de légende urbaine, mythe urbain. Est-ce que vous avez comme ça des connaissances d'histoires un peu de ce type ou...
Bon, on a connu les histoires de crocodiles dans les égouts de Paris.
Ah oui, les crocodiles.
Ou des mygales dans les yuccas. Vous souvenez pas de ça, les yuccas, vous voyez, ces sortes
Jean-Marc.
De plantes. Il y avait donc une légende disait que des mygales nichaient à l'intérieur de ces yuccas.
Ah oui, intramuros.
Voilà.
En tout cas, moi j'aimerais bien voir la légende urbaine qui se profile et qui se continue pour savoir l'histoire du mec qui a ouvert la valise. Peut-être qu'il a lui aussi essayé de refourguer ses vieux ordinateurs à un vieux copain, un reseller.
Mais on peut l'inventer la suite, c'est ça qui est bien. C'est qu'entre la fiction et la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Moi, je me suis vraiment posé la question quels ont été les derniers aboiements du chien.
En tout cas, c'est ce qu'on croit. Une histoire, elle est vraie quand on croit qu'elle est vraie.
En tout cas, elle fait plaisir à écouter, c'est ça qui est drôle. Moi, je vous propose de déconstruire le validisme, rien que ça. Bon, alors déjà, c'est quoi le validisme ? Encore un mot en isme. J'aurais tendance à dire que c'est une sorte du racisme du handicap. Alors oui, mais pas tout à fait, parce que dans cette définition, il y a plein de gens qui vont se dire « Ouf, c'est pas moi, ouf, je suis pas validiste, yes !» Et moi la première, en fait. Mais en fait, c'est bien plus sournois que ça, parce que le validisme, ça se faufile partout. C'est quand on dit « Oh, la pauvre !» C'est quand on dit « Ah, désolé, ça va être compliqué !» Ou alors « Ah, t'es sourd, du coup, tu peux pas !» C'est quand on dit « Bouge pas, je vais le faire à ta place !» Ou alors quand on dit « Tu peux pas entrer ici, faire cette école, faire ce sport, travailler là, voyager seul, faire une famille, acheter un appartement, etc. » Alors, comme je vais pas déconstruire ça toute seule, on va le faire ensemble, et surtout avec Lydie Raer. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis membre du collectif anti-féministe Les Dévalideuses. Je suis une femme en situation de handicap moteur, je me déplace en fauteuil roulant, et je suis par ailleurs élue écologiste à Ivry-sur-Seine.
Merci de t'être présentée, parce qu'on a décidé qu'on se tutoyait. J'en profite pour me situer moi aussi. Je suis valide, je ne suis pas en situation de handicap, mais j'ai un peu un pied dans le milieu du handicap, parce que ma fille est en situation de handicap, donc j'ai un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Pour commencer, moi je vous propose d'écouter un extrait du podcast qui s'appelle « Au boulot » ou « Comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail ». C'est une enquête qui a commencé il y a 2 ans et qui essaye de comprendre pourquoi il y a encore des discriminations autour du handicap et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus besoin de faire de podcast sur le sujet. Donc la voix que vous allez entendre, là c'est l'autrice du livre « Mon privilège, ton oppression » qui s'appelle Nathalie Achard. Et pour essayer de définir le validisme, elle nous propose une petite expérience.
On est normal.
Nathalie Achard est écrivaine et autrice du livre « Mon privilège, ton oppression » qui se découpe en plusieurs chapitres. Je suis classiste, je suis hétérosexiste, je suis raciste, je suis validiste, etc.
toutes les discriminations, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un schéma normal, préférable et honorable, et il y a le reste. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup, en fait. Hein. Et dans la situation de l'handicap, le validisme, c'est être en capacité de vivre dans ce monde tel qu'il est. Donc, c'est une vision extrêmement réduite de l'humain, qui est un humain fonctionnel dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Honnêtement, c'est très compliqué à définir. Moi, je vous invite à le définir en observant le monde tel qu'il est autour de vous, tel qu'il est organisé.
Est-ce que une journée classique de travail de 8 heures dans le bruit, c'est quelque chose qui est facile pour moi? Est-ce que prendre les transports tous les jours pour aller au travail, bah oui, ça pose aucun problème. Petit exercice, je prends une journée. Tout ce que je fais, mais du matin jusqu'au soir, je le note. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je descends l'escalier, je donne tout, mais vraiment tout, tout, tout. Et puis là, je regarde.
Pourquoi c'est facile pour moi? Qu'est-ce qui fait que c'est facile pour moi, en fait?
Alors, si on se prête au jeu, moi, je peux dire que je suis venue à vélo ce matin pour venir ici. J'ai pris les escaliers, j'ai enjambé le petit rebord pour entrer dans le studio et j'ai mis un casque sur mes oreilles. Lydie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta journée? Toi, qu'est-ce que ça s'est
oui,
déroulé ta journée?
Alors moi, j'étais en télétravail. J'ai la chance de pouvoir télétravailler 2 jours par semaine. Et donc, comment je suis arrivée ici? Ben, les transports en commun n'étant pas hyper accessibles, j'avais l'option entre soit prendre ma voiture ou prendre ma roue motorisée. C'est compliqué de se garer sur Paris. Je me prends quelquefois des amendes. Du coup, j'ai préféré prendre ma roue motorisée. En fait, c'est un système d'assistance électrique que je clipse à mon fauteuil manuel. Et donc, j'ai mis 40 minutes à venir. Il y a eu quelques petits obstacles, des trottoirs, des personnes qui se poussent pas. Et puis, l'ascenseur aussi, on a mis un petit temps quand même à pouvoir récupérer les clés pour monter dans l'ascenseur. Et après, il y a eu le petit rebord, mais voilà.
Vous avez le rebord en commun. C'est un peu comme un avant de Solex, c'est ça?
Oui,
la roue motorisée, ça se décroche.
Oui, oui.
Et ça s'accroche sur le fauteuil.
C'est ça.
J'ai vu en arrivant. Incroyable.
Alors, moi, ce que je comprends du validisme, en fait, c'est que tout le monde est plus ou moins validiste, même quand on ne le sait pas, ou peut-être même surtout quand on le sait pas ou qu'on ne le croit pas. Et j'avoue que oui, même moi, je me trouve un peu validiste parce que voilà, je suis la maman d'une petite fille en situation de handicap et j'ai l'impression d'être un peu validiste quand je me dis « Ah oui, elle va pas pouvoir faire ça, ah ça va peut-être être difficile de faire ça, ah oui, là, bon, je me serais bien passé de son handicap et ça m'embête un peu de penser ça d'ailleurs. » Et j'aimerais bien savoir, vous, de votre point de vue, comment vous pourriez expliquer le validisme?
Alors le validisme, c'est le système d'oppression qui concerne en fait que subissent les personnes handicapées du fait de leur non-appartenance en fait à la norme valide, c'est-à-dire les personnes qui sont dites en situation de handicap physique, par exemple parce que elles se déplacent en fauteuil roulant et qu'elles peuvent pas marcher, ou pour qui c'est compliqué de marcher, les personnes par exemple avec un handicap sensoriel, malvoyant, malentendant, les personnes avec un handicap psychique ou avec une neuroatypie, enfin voilà, c'est un spectre en fait très très large, le handicap. Voilà. Et en fait, même les personnes en situation de handicap sont validistes aussi. Enfin, on a du validisme intériorisé. Tout le monde est validiste. Enfin, on a tous des biais validistes, des biais racistes, des biais sexistes, et j'en passe.
Et ça, c'est la première étape, je dirais, de prendre conscience que oui, on est concerné, même si on est en situation de handicap, même si on se sent proche des personnes en situation de handicap alors qu'on est valide, même si on est pétri de bonnes intentions. Et j'ai l'impression que là où c'est le plus sournois, le validisme, c'est qu'il peut justement se cacher dans les bonnes intentions. Et pour ça, je vous propose d'écouter un second extrait.
Si vous venez m'aider en pensant que mon problème, c'est mon problème, c'est pas la peine, merci. Par contre, si vous venez m'aider en sachant que mon problème, c'est le vôtre aussi, en fait, parce que nous sommes dans l'interdépendance, et bien là, on peut travailler ensemble. Il y a une notion qui est hyper importante, qu'on retrouve en communication non-violente et qui s'applique à peu près tous les systèmes de discrimination, qui est la différence entre aider et servir. Aider, c'est considérer que l'autre est cassé, que l'autre est diminué, que l'autre n'a pas de capacité. Et que moi, par contre, je sais ce qui va être bon pour l'autre. Et donc, je vais appliquer Et vraiment, parfois, de toute bonne foi, avec une véritable intention qui vient du cœur, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais je vais appliquer ce qui est bon pour moi. Et on ne fait pas confiance dans le fait que l'autre en face sait faire des choses. L'autre en face sait ce dont il ou elle a besoin. L'autre en face a des ressources que je n'ai pas. Parce que dans ma vision, si cette personne ne peut pas marcher, elle a un problème par rapport à ce que moi je vis. Parce que ça me paraîtrait impossible, moi, de vivre sans pouvoir marcher comme je marche. Donc, en aidant, je veux que la personne fasse ce qui me paraît bon pour elle par le filtre de ce qui est bon pour moi. Et donc, je lui enlève toute sa capacité de créativité, toutes ses ressources personnelles qui ne sont pas les miennes. Ça, c'est classique.
D'après vous, à quel endroit le validisme est le plus sournois, le plus discret et du coup, j'imagine, le plus dur à déboulonner?
Oula, non mais je dirais que c'est une des oppressions la plus compliquée en fait à déboulonner parce que c'est vu comme quelque chose de l'oppression en fait vécue par les personnes handicapées comme quelque chose d'individuel et pas du tout politisé. Le handicap est, est vu comme une tragédie personnelle et c'est pas le problème c'est l'environnement qui n'est pas adapté à nos besoins. Donc dans ce sens-là, en fait, c'est très tout est compliqué à dans le validisme en fait, que ce soit la bienveillance, on appelle ça nous chez des valideuses le validisme gentil, quelqu'un qui va nous pousser sans nous aider ou nous dire qu'on est très courageux. Ou le Téléthon, par exemple, avec les dévalideuses l'année dernière, on a fait une campagne anti-Téléthon, les gens ne comprennent pas. Ils disent « Oh, mais quand même, vous êtes contre la recherche, vous êtes contre... Enfin voilà, on a quand même 72 heures dédiées aux personnes handicapées, pourquoi ? Enfin, c'est quoi le souci ?» Donc voilà, c'est tout cet aspect un peu charité chrétienne, des fois, qui est hyper compliqué à déconstruire.
Et est-ce que...
Est-ce que je peux raconter l'expérience que j'ai eue tout à l'heure dans le couloir, en fait?
J'y pensais.
Parce que vous êtes arrivé dans le couloir et la première chose que je vous ai proposé, c'est est-ce que je peux vous pousser?
Ouais.
Vous aviez décroché le Solex motorisé, là.
Oui.
Et en fait... parce que j'écoute ce sujet avec intérêt. Mais donc là, moi, c'est faute, erreur, quoi.
Oui, après... Comme ça part d'une bonne intention et...
Oui, mais voilà, c'est le gentil, quoi.
Ouais, mais ça, c'est tous les jours. Et des fois, j'ai des gens dans la rue, ils vont me pousser sans mon consentement. Donc, ça peut être hyper dangereux parce que ça peut me faire tomber. Et puis, ça peut aussi, quand c'est un homme cis, ça peut être... Enfin, moi, je trouve ça très intrusif, en fait. Puis, il y a... Enfin, voilà, nous, je peux associer ça à un risque d'agression, enfin...
Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Alors que moi, ce n'était pas du tout, même pas une bonne intention, c'était pour aller plus vite, pour vous installer dans le studio.
Ah non, mais ça, oui, en plus. Non, et par exemple,
c'était technique, quoi. C'était,
Ou par exemple, quand je fais les courses, une fois, il y a une personne qui m'a poussée pour pouvoir se servir dans le rayon.
Ouais.
Alors là, clairement, c'était pour elle, pour aller plus vite. Ce n'était pas du tout pour m'aider.
Voilà,
ça me fait penser à une personne que j'ai interviewée dans ce podcast qui est aveugle et qui m'a dit, mais... combien de fois, moi, devant l'ascenseur, on me dit « Oulala, attendez, vous voulez que je vous prenne la main, que je vous emmène dans les escaliers ?»
Amélie Poulain.
Mais voilà, mais il dit mais en fait, non, mes pieds vont très bien. C'est pas « Oulala », en fait, c'est mes yeux qui vont pas. Et je suis tout à fait capable de savoir que je suis au cinquième étage et que je vois que j'aille à droite, à gauche, etc. Il dit « C'est pas du tout « Oulala », en fait. » On part du principe que, enfin, le validisme, d'après moi, c'est ça. C'est on part du principe qu'une personne a besoin d'aide. C'est une pauvre personne. Elle est pas capable de faire ça parce que moi... valide, je ne serais pas capable de faire ça. Mmh. Alors qu'en vrai, si j'étais en situation de handicap, je le serais, puisque j'aurais trouvé des stratégies pour le faire. Mais c'est ça que je retiens, c'est vraiment partir du principe que tout le monde a les capacités de faire quelque chose et que, du coup, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais est-ce qu'il faut dire, par exemple, pour éviter du validisme gentil, est-ce qu'il faudrait dire, un peu comme on a entendu dans l'extrait, voilà, je suis dispo. S'il y a besoin d'aide, je peux.
Oui,
oui
parce que comme l'environnement n'est pas du tout adapté à nos besoins, c'est vrai que parfois on a besoin d'aide, effectivement. Mais il faut juste peut-être des fois tendre la main, demander si la personne a besoin, mais jamais le faire sans son accord. Mais oui, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu des fois être vigilant à si la personne est en difficulté et lui demander.
Et alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'était, alors on pense surtout que le handicap comme une tragédie individuelle, mais qu'au final, c'est politique. Et oui. Vous, votre métier, enfin, toi, ton métier, c'est d'être conseillère municipale.
C'est pas mon métier, en fait. Ah. J'ai plusieurs casquettes. En fait, je travaille dans une collectivité locale, je suis chargée de mission, et je travaille, il se trouve, sur les politiques de l'autonomie. Et sinon, je suis aussi conseillère municipale et écologiste, oui.
Et du coup, je me demandais, est-ce que... en ayant un pied dans le milieu politique, est-ce que vous avez les moyens d'agir contre le validisme? Est-ce que le simple fait d'être là, c'est déjà une façon d'agir contre le validisme?
Alors, c'est très compliqué. L'accès à un mandat électif est déjà très compliqué. Je suis membre des écologistes et avec des camarades, il y a 2 ans, lors du dernier congrès, on avait défendu une motion. En gros, une motion, c'est un texte qui engage le parti sur une thématique donnée. Et on avait rédigé et fait voter une motion intitulée « Faire de ELV », parce qu'à l'époque, on s'appelait encore ELV, un parti anti-validiste. Et il se trouve que rien que le fait de s'engager dans un parti, c'est très compliqué du fait de l'inaccessibilité des réunions, que ce soit évidemment pour les personnes en situation de handicap moteur, mais également pour les personnes, par exemple, sourdes ou malentendantes. On a, pendant des années, on a dû batailler pour que le parti mette en place des sous-titres pour nos visios. Et même pour toutes les rencontres, il n'y a pas de LSF, il n'y a pas de vélotypie. Enfin, c'est un combat, en fait, de tout le temps, en fait, pour accessibiliser, en fait, nos événements. Et puis après, il y a aussi l'accès à une position éligible. Et souvent, on sert de faire valoir. On est l'handicapé de service. C'est toujours bien d'avoir un éclopé sur sa liste pour les municipales. Mais après, pour avoir un mandat et une délégation intéressante, là, c'est une autre paire de manches. Et après, une fois qu'on a enfin un mandat, c'est tout aussi compliqué d'exercer son mandat dans de bonnes conditions. Il y a notamment le creep time, rapidement, ça vient du mot cripple, qui en anglais signifie tordu, boiteux, estropié. Et donc creep, c'est comme le mot queer, c'est un retournement du stigmate. Donc il y a le mot creep time, donc c'est le rapport des personnes handicapées au temps. Et du fait de la fatigabilité ou du temps qu'on peut mettre à faire telle ou telle tâche, à se déplacer, etc. Et c'est vrai que, par exemple, à Ivry-sur-Seine, nous sommes deux élus en situation de handicap physique. Et c'est vrai que les conseils municipaux se terminent à 2h du matin. Ma collègue Marie ne peut pas assister à la totalité du conseil municipal parce qu'elle doit être branchée sur son respirateur à partir de 21h. Moi, je tiens, mais le lendemain, je suis complètement fracassée. Et ouais, c'est très compliqué. Là, on a eu un temps d'échange avec le maire en disant, ce serait bien quand même une petite prise en compte du creep time, mais pour nous mettre à égalité avec les autres élus. Parce que et rapidement, en fait, les personnes vont dire, elles sont feignantes. Alors que non, en fait, c'est juste qu'il nous faut les bonnes conditions pour nous engager, comme les autres. Je sais pas si c'est très clair.
Si, parce que ça me fait justement penser à l'expression de « en situation de handicap » qui, je ne sais pas si ça fait l'unanimité ou pas, mais en tout cas, je trouve que dans cette expression, il y a le fait que ce qui pose problème, c'est la situation, c'est pas le handicap, parce que si la situation était adaptée et fluide et ok, du coup, il n'y aurait pas vraiment de problème d'accès ou quoi. Et pour finir, donc la première étape, c'est vraiment la prise de conscience nécessaire. Ah, je suis peut-être un peu validiste, en fait. Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et la deuxième étape, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, politiquement? C'est pas toujours évident, mais de façon individuelle. Est-ce que vous avez un petit conseil, un réflexe, sachant que c'est bien plus, un enjeu bien plus grand que ça, mais bon, juste pour.
S'informer, tout simplement. Deux ressources. Il y a un premier, c'est le livre de Charlotte Puiseux, De faire et de faire vivre et lutter dans une société validiste, qui est sorti il y a 2 ans, en août 2002. Donc Charlotte, c'est une camarade des validiseuses en plus, ça tombe bien. Et dans son ouvrage, qui est hyper facile d'accès, en fait, elle mêle son histoire personnelle à l'histoire politique un peu plus large. Donc ça, c'est... conseil lecture. Et ensuite, en documentaire, je vous conseillerais le film Creep Camp, La révolution des éclopés, qui raconte l'histoire des militantes et militants handi aux États-Unis. Et voilà, ils ont fait des choses hyper badass, ils ont bloqué des intersections, ils ont occupé des sièges fédéraux. Enfin, ouais. Et il y a notamment le portrait de Judy Human qui est dressé dans ce film, qui est la personnalité activiste un peu emblématique côté USA. C'est un peu la mère de l'ADA, la grande loi handicap aux États-Unis, et elle est décédée l'année dernière.
Ah, d'accord, donc bah, merci pour toutes ces ressources.
Voilà.
Merci Lydie Rer d'être venue jusqu'au studio du moment pour cette émission C'est le moment. Je vous invite à aller écouter et à aller lire toutes les ressources dont vous venez de parler, et aussi à aller écouter le podcast en entier qui s'appelle Au boulot, qui est sur lemoment.org. Et si vous voulez être encore plus inclusif et inclusive, parce que oui, on peut faire mieux, j'en profite pour vous dire qu'il y a bien une chose qu'on a en commun, c'est qu'on est tous et toutes différentes. Donc, je vous dis merci beaucoup et au boulot.
Le moment, médias coopératifs et citoyens, c'est le moment de se rencontrer, le moment de délibérer, le moment de rêver, de lire, de voyager, c'est toujours et encore le moment.
Ça bouchonne ?
Oui.
Et on passe un petit bouchon ensemble ?
J'aime pas trop prendre les gens dans la voiture.
Ah, vous voyez, hein, c'est le prolongement de la maison, hein, on laisse pas rentrer comme ça. Hein. Bon, bah, bonne chance.
À vous aussi.
Vous êtes en vélo, vous en fichez des bouchons?
Pas trop quand même, regardez. Même à vélo, il passe pas là. Hein. On va tenter sa chance quand même.
Ouais, je disais, ça bouchonne.
Oui, beaucoup.
Et on passe un petit bouchon ensemble? Vous me laissez monter dans votre voiture?
Bah, si vous voulez.
Ah, c'est gentil de m'accueillir dans votre voiture, hein. C'est rare.
Bah, je vous en prie. Hein.
Vous faites les ongles?
Oui, je fais les ongles, je suis sur Facebook.
Et puis alors, vous avez un porte-clés menottes?
Voilà.
Et puis un ballon,
j'ai des voitures, de la crème solaire.
Et vous voulez un petit café ou un petit thé?
Un thé.
Un thé. Bon, moi je vous sers un thé alors. Et là vous allez où en fait alors?
Je vais à l'entretien d'embauche.
Ah ouais?
Agent de sécurité incendie.
Parce que vous travaillez déjà là, oui. Vous cherchez un autre travail,
oui.
En fait.
Oui.
Pourquoi?
Ça me plaît pas.
Puisque c'est
ça me plaît plus, je suis fonctionnaire de police.
Et pourquoi ça vous plaît plus?
Parce que j'ai assez vu de choses et je veux voir autre chose.
Qu'est-ce qui vous ennuie dans la police?
Bah tout, hein, le mode de travail, le manque de moyens pour travailler, un peu tout.
Ça c'était quoi?
Ça c'est un message. Tout à l'heure c'était mon ex, et là je sais pas. un autre ex. Voilà.
Et je reviens aux menottes quand même sur le. C'est symbolique de quoi les menottes?
Ah bah c'est de mon métier. C'est de mon métier. Sur les clés de chez moi j'ai une arme. Donc c'est pour représenter mon travail.
Comment vous êtes tombé là-dedans?
Je sais pas, j'ai eu un court-circuit dans ma tête. Ah, je voulais rentrer en brigade des mineurs pour protéger les enfants victimes. De violence ou d'agression sexuelle, et en fin de compte, non, j'ai pas fait ça du tout.
Et les avantages avec le nouvel emploi, qu'est-ce qui vous motive là-dedans?
Bah, j'aurais pu le contact avec tous les abrutis, voilà, qui font toutes les conneries inimaginables. J'aurais pu ce manque de respect, j'aurais plus rien. Donc là, vous me suivez jusqu'à. Jusqu'où je vais, c'est ça?
Je vous suis pas. Je vous suis pas, vous m'emmenez.
D'accord. On va chercher la rue, le boulevard Diderot alors. Ça doit être celui-là, normalement.
Je crois que c'est là-bas, ouais.
Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de petite pépite, c'est qu'on retrouve un peu de notre humanité. Et pour être quelqu'un qui est très accab, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de donner la parole à des gens et d'entendre une humanité. Et je voulais rebondir là-dessus parce que l'entretien qu'on vient d'entendre, ce qu'il faut comprendre sur les systèmes d'oppression, c'est que on déshumanise les gens. Et on déshumanise les gens soit du côté pile, c'est-à-dire qu'on va être très gentil, on va considérer qu'il y a une espèce de misérabilisme à avoir et en fait on considère les gens comme des enfants et donc on va tout faire à leur place. C'est aussi un problème avec les enfants, by the way. Ne traitez pas vos enfants comme des personnes qui ne sont pas en capacité d'être des individus à part entière. Et le côté face, où là on est sur des oppressions qui sont beaucoup plus simples à pointer du doigt parce qu'on est dans de la haine, on est dans tout ce genre de choses.
Oui, moi je suis bien d'accord avec toi Morgane, mais dis donc, t'as le micro là, ce serait pas l'heure de ta chronique ?
Moi je suis revenu avec ma chronique. La dernière fois que je vous en ai parlé, donc c'était pour pour parler de toutes les formes de militantisme en Landgrâce 2024. Depuis, on a eu deux gouvernements, peut-être trois d'ici la nouvelle année, on ne sait pas. Un président fasciste réélu aux États-Unis, des Jeux Olympiques, une cathédrale toute neuve. C'était il y a moins de 6 mois, vous vous rendez compte? Bon, bah, quoi qu'il en soit, on va s'accrocher parce que 2025 promet d'être encore plus explosif.
La transe parle au français. Présenté en direct live depuis Césure sur les ondes du moment par Morgane Jiquel.
La transe a peur. Depuis le 4 décembre 2024, où Brian Thompson, le grand patron de United Healthcare, a été assassiné en pleine rue à New York, la menace pèse. On n'est décidément plus en sécurité nulle part. Notre cher ministre de l'Intérieur nous l'a rappelé d'ailleurs ce matin. La majorité des Français veulent restaurer l'autorité, la fermeté, l'ordre public, aussi bien dans la rue qu'à nos frontières. Bon, la frontière avec New York est à plus de 5000 km, mais on ne se méfie jamais assez de l'immigrant américain CSP+, qui vient voler nos emplois. Au lendemain de l'élection de Trump, les recherches pour quitter le territoire et obtenir un visa de travail en Europe ont bondi de 1514%. Alors que pourtant les US, c'est tout de même un pays très safe. On décompte cette année seulement 488 tueries de masse, c'est-à-dire des tueries de plus de 4 personnes. Et en 2021, c'était 20 958 morts par balle, sans compter les suicides bien évidemment. Alors, la transe a peur, mais en même temps, j'habite pas aux États-Unis. Et si c'était le cas, je ne suis ni collégienne, ni la patronne d'un empire financier qui refuse un tiers des demandes de remboursement de soins pour une mutuelle qui coûte en moyenne la petite somme de 631$ par mois. J'ai donc beaucoup moins de risques de me faire tirer une balle dans le dos. Ah merde, j'avais oublié que j'étais trans aussi. Heureusement, on peut compter sur Fox News pour condamner ce geste haineux et honteux. D'autant plus qu'il s'agirait bien d'un crime idéologique, puisque la personne qui aurait fait le coup a gravé sur les balles la philosophie de refus de soins des mutuelles des États-Unis, la devise désormais célèbre, « Delay, Deny et Defend ». Se faire tuer par son propre business plan, c'est saut 2024. Est-ce que la trend survivra à 2025? On se retrouve dans le prochain épisode. Car dans la transe parle au français, on s'interroge sur comment militer aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous conseiller d'aller faire justice vous-même en allant abattre en pleine rue des patrons qui profitent de la misère des autres. J'ai pas le droit. Mais même si on estimait en 2009 qu'entre 35 000 et 45 000 Américains mouraient de manque de mutuelles chaque année. C'est plus que par balle, si vous suivez bien le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui était autour de 20 000. Et que United Healthcare a fait 22 milliards de bénéfices en 2023. Comme quoi, tuer une personne, c'est pas ouf, mais 45 000, ça force le respect. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette hypocrisie qui fait les bons et les mauvais crimes. Fox News s'égosille sur ce crime honteux alors qu'ils avaient encensé l'otage de Kyle Rittenhouse qui, je le rappelle, à 17 ans, avait traversé plusieurs états des États-Unis pour tuer deux manifestants anti-violence policière. Il avait même eu le droit à une conférence et standing ovation à la fameuse CPAC. Mais plus proche de chez nous, je vous rappelle que nous avons donné 1,6 million d'euros en campagne de financement participative au policier qui a tué Naël, sans que ça dérange beaucoup la classe politique. Imaginez un instant qu'on ait donné 1,6 million d'euros à un Naël qui aurait tué un policier, parce qu'elle pro serait aux urgences. Et là, il se passe quelque chose que personne n'avait pu prévoir et qui n'aide pas beaucoup la fausse indignation des plateaux de télé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ce qui a tout fait basculer sur cette affaire?
Non.
Non? Bah, c'est qu'on a eu des images du principal suspect, Luigi Mangione, et malheureusement pour tout le monde, il est grave bégé. Et s'il y a bien une chose qui enflamme les internets, c'est un petit bad boy avec un petit sourire en coin après avoir assassiné l'un des patrons les plus détestés des États-Unis. Alors vous pouvez aisément imaginer ce qui s'est passé. Soudainement, on a vu les TikTok fleurir sur les alibis plus ou moins farfelus qui jurent que Luigi Mangione était bien en train de faire des pizzas ce soir-là ou sauver un enfant de la noyade. Tout est bon à prendre pour la surenchère. On a eu le droit au concours de sosie de tueurs à Prospect Park. Et les avocats ne sont pas en reste, puisqu'ils ont pris les réseaux pour nous expliquer ce que c'était que la nullification. Parce qu'en fait, aux États-Unis, un jury peut décider, même si toutes les preuves sont là, de dire non coupable. Ce qui est assez fou, et ce qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que l'assassinat de ce CEO semble être le premier point d'équilibre sur lequel tout le monde se met d'accord, gauche et droite. Serait-ce donc ça, l'extrême centrisme? Personnellement, si j'ai bien un conseil à vous donner, que je retire de toute cette histoire-là, c'est ne menez pas une vie où les gens organisent des concours pour se déguiser en votre meurtrier 3 jours après votre mort. Ça me semble plutôt tomber sous le sens comme conseil, une bonne philosophie de vie. Après, honnêtement, j'adore donner des conseils et pas les suivre moi-même. Donc, pour nuancer tout ça en conclusion, je voulais vous dire, si je finis par succomber aux sirènes du capitalisme et exploiter la misère des autres pour mon enrichissement personnel en tuant 40 000 personnes pour 22 milliards de chiffre d'affaires, honnêtement, entre nous, avec son petit sourire sexy et ses cheveux bouclés, il vient me tirer quand il veut, Luigi. Me tirer dessus.
La transe parle au transet. Présenté en direct live depuis Césure sur les ondes du moment par Morgan Jiquel.
Du coup, moi qui suis un validiste mal intentionné mais gentil et tout ça, enfin, je sais pas trop quoi dire là-dessus à la fin de ça.
Ouais, bon, j'espère que tu vas pas succomber aux sirènes du capitalisme.
Et normalement, mais c'est pas une valise ça qui est sur la table ?
Ouais, une valise pleine de billets ?
Mais parce que ça me fait penser à l'histoire du chien tout à l'heure, mais rien à voir.
Moi, c'est juste un chihuahua.
Un chihuahua,
ouais.
Ah, quelle voix,
ça un chien.
Quelle voix, Jean-Marc, quelle voix, très grave. Écoute, Jean-Marc, tu t'es venu avec ta guitare, tu peux t'installer tranquillement.
J'ai la guitare.
Donc Jean-Marc, toi, t'es l'invité qui n'était pas prévenu. Hein. Tu t'appelles Jean-Marc, mais bon, je savais pas que tu t'appelais Jean-Marc il y a 5 minutes. T'es chanteur de rue. Et oui. Nous, on est donc à Césure, ici, dans le 5e arrondissement. Et à côté, il y a cette fameuse rue Mouffetard. Et toi, t'es un chanteur de rue.
Je suis le chanteur de la rue Mouffetard.
C'est pas vrai, il y en a plusieurs.
Oui, mais je suis le seul.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le chanteur qui est là depuis tant d'années que c'est lui
Le chanteur qu'on a fait une mission d'être à la rue Mouffetard, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que j'y chante.
Ah
en
ouais,
fait.
Ouais.
Alors c'est le seul endroit sur Terre où je chante dans la rue, parce que ailleurs je fais un métier normal de chanteur, avec dans des salles de spectacle, etc. Mais là, à Mouffetard, c'est un rapport particulier, parce que c'est un quartier, j'y habite depuis longtemps. Et puis il y a quelque chose de naturellement poétique dans le lieu, quoi. Il y a une magie qui se dégage de cette rue. Il y a une collection de fêlés comme on en trouve nulle part aussi. Donc ça crée une sorte d'ambiance très particulière, très familiale finalement, dans le bas de la rue Mouffetard. Hein. On ne parle pas de l'endroit où on vend les kebabs, tout ça là-haut. Je parle du bas, vraiment vers Saint-Médard. Là, on est vraiment un petit groupe d'un peu de fidèles. Et donc, moi, je chante pour les enfants, que je fais danser aussi de temps en temps, que je fais chanter, pour les personnes âgées qui me demandent des chansons, enfin, un peu pour tout le monde, quoi.
Et c'est quoi la population du 5e ? Là, on dit que c'est une population qui est un peu bourgeoise, un peu... c'est vrai, ça ? Ou, par rapport à la rue Mouffetard, ça fait un peu village, ça fait un peu... C'est qui les habitants de la rue Mouffetard ?
Alors, c'est particulier, parce qu'en fait, la rue Mouffetard, il y a vraiment toute forme d'habitat. C'est-à-dire que ça va vraiment de la Contrescarpe à Saint-Médard. Et bon, moi, le Haut Mouffetard, c'est déjà pas mon quartier. J'y vais pas dans le Haut Mouffetard. Il me faut un passeport.
Bon, je précise pour les auditeurs qu'il y a 150 mètres, 200 mètres.
Ouais, mais ça compte. Regarde la Suisse ou la Belgique. Tu vois, c'est le même genre de problème. Non, le Haut a été définitivement abandonné, on va dire, à un commerce qui concerne essentiellement des gens qui viennent, des touristes, ou des gens qui viennent de province, quoi, qui viennent, ou même de banlieue pour venir dans le coin, parce qu'il y a quelques bars d'étudiants, des choses comme ça, et puis beaucoup de crêperies, ce genre de trucs, des trucs de rue, quoi. Ça, c'est vraiment le Haut. Et dans le Bas, nous, il nous reste un petit endroit, comme ça, on a un refuge, comme ça, qui est vraiment entre Saint-Médard et la rue de l'Arbalète, donc c'est vraiment pas très grand, hein, c'est deux rues. Mais cette partie-là, spécifiquement, a une énergie très particulière, et les gens qui y sont, là, c'est le mélange le plus interlope que tu puisses imaginer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a encore des gens qui habitent là, qui sont vraiment ce qu'on appelle des petites gens, quoi. Il y a vraiment toutes sortes de gens qui sont mélangés. Et effectivement aussi des gens beaucoup plus aisés qui sont arrivés après. Mais chacun respecte une sorte de code de fonctionnement avec beaucoup de civilité dans cet endroit.
Et c'est plutôt celui qui vient d'arriver qui doit respecter les anciens ou...
Ah, ils ont intérêt. moi, pour l'anecdote, je peux le raconter maintenant. J'ai réussi à faire virer un agent de la CIA. C'est pas une blague. Le mec, il avait pris un...
Ça commence fort, là.
Ouais. En fait, il avait pris un appartement au-dessus du Mouffetard, là, presque en face de l'endroit où je joue, et le mec supportait pas que je joue. Ça lui posait. Bon, je joue pas très fort, je mets pas de sono, etc. Mais voilà, il y a des gens vraiment que ça les range. Donc lui, il m'a fait la guerre, pas mal. Et puis je lui ai fait la guerre aussi. Donc voilà, par placard interposé dans la rue, des affiches, le mec a vraiment mis des trucs étonnants. Et comme j'étais pas verbalisable, parce que je suis pas verbalisable, parce que je n'ai pas de sono, quoi. Donc je chante à hauteur où quelqu'un parle. Donc tu peux pas m'accuser de tapage nocturne ou diurne. Donc du coup, le type était tellement ulcéré. qu'il a vendu son appartement, il est parti, et je sais, il a dit autour que c'était à cause de moi. Je n'en suis pas peu fier. Tu vois, j'ai rendu un service à la France.
Quel rapport avec la CIA?
C'est parce que le mec était un agent de la CIA. Il avait une carte. Enfin, il travaillait pour le département américain de l'intelligence. Il avait une carte, le type.
Et toi, tu travailles pour qui?
Ça, tu sauras un jour, peut-être. Alors, quand il sera trop tard.
Et ce qui m'interloque aussi, moi, aujourd'hui, c'est que ça marche encore, chanteur de rue. Il y en a encore. C'est-à-dire que tu fais des concerts dans des salles et tout ça, mais cette rétribution à la pièce, j'ai vu que parfois, certains chanteurs ont même des QR codes, on peut payer avec le téléphone, quoi.
Oui, oui.
Toi, tu fais pas ça?
Non, pas encore, mais disons que non, mais c'est... En fait, le fonctionnement est vraiment particulier. Moi, la manière dont je le fais est très, très différente, en fait, je pense. C'est-à-dire que je n'y vais pas, moi, pour gagner ma vie, quoi. J'ai pas besoin de ça. Enfin, j'en ai besoin, évidemment. Disons qu'on a toujours besoin de ce qu'on gagne, quoi. Mais disons que c'est pas la base de mon travail. C'est vraiment plutôt... C'est un geste, j'ai le sentiment vraiment de faire un geste pour le quartier. D'ailleurs, la mairesse Florence Berthoul l'a bien compris, puisque pendant le Covid, en plein couvre-feu, donc au moment où vraiment personne n'avait le droit de sortir, elle m'avait fait une autorisation spéciale pour que je puisse chanter devant la boulangerie.
L'utilité publique.
Voilà, qui était le seul commerce ouvert. Tu vois, il y a Perrier et moi, puis bientôt Perrier, ça va fermer. Donc la dernière utilité publique, ça va être moi.
Et tu chantes combien de temps comme ça quand tu fais tes
deux heures,
deux heures,
ouais. Ouais. Okay.
Dans le froid, deux heures dans la pluie.
Oh, ouais, il y a même des vidéos de moi au Japon, ils m'ont filmé sous la neige, parce qu'il neigeait, je me suis mis sous un auvent d'un commerçant, et j'ai chanté donc pendant qu'il neigeait dehors, quoi. Et donc ils m'ont tous filmé, ils étaient un peu fous, quoi. Non, après c'est vraiment, voilà, bon, évidemment quand il neige, je reste pas deux heures. Deux heures, c'est le temps que je m'impare, et toujours de 11h à 13h, en fait. C'est vraiment mon temps, parce que j'ai remarqué que tout simplement les gens font leurs courses à ce moment-là, ou alors ils cherchent un restaurant, voilà, il y a beaucoup les gosses aussi.
C'est le bon timing, quoi.
Ouais, c'est le bon timing, c'est le bon moment, quoi. Ouais.
Et donc on gagne quoi? Tu...
Ah bah c'est extrêmement variable, bien sûr. Disons que je pense que je pourrais virer économiste social, parce que je peux voir quand les gens vont mal en fonction de ce qu'ils me donnent ou pas, tu vois. Mais non, globalement, pour le dire sérieusement, je peux dire que en général en deux heures j'arrive à gagner entre 80 et 120 balles à peu près.
Ok, cool.
Voilà.
Donc c'est quoi? C'est le resto? C'est le plaisir? C'est quoi?
Ouais, c'est vraiment une mission pour moi. À la limite, tu vois, j'y vais quelquefois quand il n'y a personne, parce que je fais résonner la rue. En fait, j'ai vraiment le sentiment de jouer aussi beaucoup. Alors ça fait un peu mystique de dire ça, mais je pense que les pierres ont une mémoire très forte. Et la mémoire des pierres de Mouffetard, moi, m'a complètement secoué. Donc je suis en communication avec ces pierres. Et quand je chante, c'est ça que je fais. Je chante à la fois pour les gens qui sont là et pour François Villon, si tu veux, qui fréquentait le coin.
Voilà. Génial, bah on va t'écouter. Je sais pas si dans le quartier, il y a aussi une chanteuse lyrique qui chante de temps en temps.
Absolument.
On l'entend même des maisons, des immeubles et tout ça. Elle chante, elle traverse la rue, elle chante du chant lyrique. Tu la connais?
Alors oui, ça c'est une vraie chanteuse lyrique, hein, c'est une professionnelle.
C'est clair. Ouais.
Et qui effectivement qui s'entraîne dans la rue, qui se pose pas de questions et qui a bien raison. Mais dans le quartier, on en avait une de chanteuse lyrique au punk. Qui s'appelle Clara, et qui venait, elle, avec son petit ampli, elle a fait le tour du monde avec son truc. Elle, c'est une vraie chanteuse de rue, c'est-à-dire qu'elle, elle ne fait que ça. Mais alors, elle est partie en Australie, elle était partout, avec son petit appareil, donc elle ne chante que sur des playbacks, mais elle chante du Piaf vachement bien, elle a vraiment très, très, très beau caractère, quoi, beaucoup de personnalité.
Bon, écoute, c'est sympa, en tout cas, de venir au Déboté comme ça. Tu vas nous chanter quoi?
De préférence, une de mes compositions, puisque j'en chante peu, quoi, donc voilà. C'est une chanson récente que j'ai écrite au Maroc, en face du Nil, et une fois que j'avais fini la chanson, mon copain m'a dit, c'est la dernière île d'Ulysse, et j'avais écrit ça.
Ok, chanson de rue, la rue, espace qui nous sépare et qui nous réunit, et le chant, ça nous réunit.
Il faudra bien un jour qu'on soit l'humanité, disait le roi mendiant à sa veuve éplorée. J'ai arpenté le monde, essuyé les tempêtes, fait tous les compromis et dupé la planète, en n'étant personne. En somme, et les hommes ont écrit et les hommes ont chanté le Mahabharata, l'Iliade et l'Odyssée. Franchi le Rubicon, passé le Potomac, et brûlé les vaisseaux en toc du roi d'Ithac, comme personne. En somme, Ulysse s'est caressé le vent dans le sens des voiles, se laisser voyager à travers les étoiles, entrer dans le tableau et refermer la toile, être enfin Ulysse. Vivre de cœur béant à toutes les fortunes, et s'offrir au monde en dansant sous la lune, des dieux en colère, ignorer la rancune. On avait tout prévu et tout organisé. Des menteurs pour mentir, des chercheurs pour chercher. Éborgner le cyclope et mis le monde à sac. Tandis que Pénélope éduquait Télémaque en fils de personne. En somme, à quelles étaient jolies les filles de Pompéi. Le mercredi des cendres, de retour au pays. Disait le roi mendiant à sa veuve éplorée. Il faudra bien un jour qu'on soit l'humanité ou personne. En somme, Ulysse s'est caressé le vent dans le sens des voiles, se laisser voyager à travers les étoiles, entrer dans le tableau et refermer la toile. Être enfin Ulysse, vivre le cœur béant à toutes les fortunes, et s'offrir au monde en dansant sous la lune. Des dieux en colère ignorer la rancune. Être enfin Ulysse, en mettre plein la vue à Homère en personne, et s'avancer sans peur au bois de Perséphone. Être Ulysse, en somme.
Merci. Merci Jean-Marc pour cette chanson. On te retrouve dans la rue Mouffetard, mais aussi peut-être ailleurs.
Oui, là, j'ai une actualité dans le quartier, parce qu'à force d'y jouer, évidemment, ça finit par payer, si j'ose dire. Donc là, j'organise un événement avec la mairie, pour la mairie, qui s'appelle Quartier Lapin, et donc qui est un hommage au surréalisme. On fait la fin de l'exposition de Beaubourg, et ce sera les 24 et 25 janvier. 24 janvier, c'est au studio des Ursulines, où on fait des projections d'un chien andalou, et moi, je vais faire une conférence un petit peu loufoque. Et le lendemain, le rendez-vous, c'est 17h devant l'église Saint-Médard. Si vous avez des emmerdements dans la vie, vous venez les écrire sur un papier, on les met dans un cercueil, on remonte la rue Mouffetard avec une fanfare, et on arrivera au square de l'Estrapade, où là, on va faire un compost avec vos emmerdes, et on va les agglomérer aux différents parterres du 5e arrondissement.
Voilà. On peut participer, c'est participatif, quoi.
Absolument. En fait, l'idée, c'est simple, c'est planter des soucis et cueillir de belles pensées.
Ah bah c'est joli, c'est super joli, moi j'y serais.
Alors on a tous des emmerdes à planter, ça c'est sûr, et récolter des choses un peu meilleures. Moi ça me fait penser à cette compagnie de théâtre de rue qui s'appelait Cacahuète et qui faisait un spectacle qui s'appelait L'enterrement de maman. Et alors c'était cinq personnages comme qui transportaient le cercueil de leur mère et ils traversaient la ville avec, c'était complètement, complètement fou. Ouais. Et donc quartier Lapin, on gagne un peu d'argent, ça tu l'as souligné Jean-Marc.
C'est un tout petit peu. Hein.
Bah ça fait, ouais mais ça fait du bien quand même.
Oui, ça fait du bien.
Parce que bon, la Manche et tout ça, la Manche c'est quand même un bon sentiment, hein, de récolter ce qu'on a au fond du chapeau et de savoir vraiment la sueur de notre front ce qu'on a gagné.
En fait la réalité c'est que ce qui paye dans la Manche c'est les regards des gens et le sourire des gens, c'est ça qui fait vraiment toute la
pas
valeur.
Que, pas que, et la gamelle. Ah, si. La gamelle faut...
Non, la gamelle est induite par ça, c'est-à-dire que s'il y a les regards de bienveillance, si les gens sont attentifs à ce qui se passe, le rapport d'argent se fait naturellement et instinctivement sans y penser.
Okay.
C'est très différent de gens qui passent, qui te regardent pas. Même il y a des gens qui vont mettre de l'argent mais pour ne pas te regarder par exemple.
Ah ouais.
Donc là tu vois, il y a un truc un peu comme
vrai,
ça.
C'est horrible ça.
Il y a 5% de
l'espèce de quête, le dédain.
Voilà, exactement.
Pauvre chanteur.
Ça peut arriver. J'ai même eu un exemple d'une dame il y a pas très longtemps. Alors ça c'est le genre de truc. Évidemment il faut quand même une bonne dose d'optimisme pour faire ce genre de choses. Donc il y a une dame que j'ai repérée plusieurs fois, c'est plusieurs fois qu'elle me fait le coup, mais là c'était autour de Noël, c'était très fort, elle s'est mise près de l'étui de ma guitare où les gens mettent de l'argent, et elle a commencé à fouiller dans son sac avec vraiment regardante, avec insistance vers le truc, tu vois, et j'allais presque dire merci et elle a refermé son sac et elle est repartie.
Je te jure.
Et avec un regard de triomphe un peu à la Thénardier, tu vois, enfin un truc vraiment, voilà, bon, tu croises toutes sortes de gens, mais
bon, c'est dur.
Mais ouais. Mais tu vois, 5 minutes après, il y a une petite fille de 10 ans à qui je fais chanter Babylone tu déconnes de Bill de Rem dans la rue avec son père qui est là et tout le monde chante, donc il y a ça aussi.
Mais dis-moi Jean-Marc,
t'as dû la faire chanter.
T'étais l'invité qui n'était pas prévenu Ouais. Mais tu as appelé quelqu'un aussi qui n'était pas prévenu non plus.
Voilà, exactement.
Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est glissé dans le studio pendant qu'on a enregistré.
Oui, c'est Fanette, avec qui donc.
Fanette.
Oui, avec qui je travaille sur ce projet, Fanette Junior Martens, avec qui je travaille donc sur Quartier Lapin, autour, on va dire, du surréalisme, de la poésie, du théâtre et de la chanson. On mélange un peu tout ça et on travaille ensemble sur une matière qui nous est commune, c'est-à-dire la matière poétique. C'est-à-dire que là, sur le Quartier Lapin, on travaille sur un texte de Valère Novarina que Fanette m'a suggéré de jouer, donc je vais me retrouver mis en scène un peu pour la première fois de ma vie, donc c'est intéressant aussi comme situation pour moi. Ça me change de la zone de confort de la rue, les choses dire. Et oui, parce que du coup, ça me confronte vraiment à une situation, ouais, quoi, tu vois. Ouais. Et là, c'est ce que j'appellerais un rôle de décomposition, puisqu'il y a joué. Donc,
plus Novarina, c'est pas quand même simple, forcément très simple.
C'est particulier. Ouais. Alors, et donc, du coup, voilà, donc on en a parlé avec Fanette, elle m'a suggéré donc ce discours, cette petite scénette qu'on va jouer ensemble, à l'issue de la projection du vendredi 24 au studio des Ursulines.
D'accord, bah bonjour Fanette, bonsoir.
Et bonjour, voilà, je débarque sur le moment.
Comment t'as fait, Jean-Marc? Il t'a envoyé un texto, comment ça s'est passé?
Oui, exactement, il m'a passé un coup de fil en me disant si voilà, je voulais passer, et donc c'est avec grand plaisir que je surgis comme ça.
Génial.
Ça me fait vraiment plaisir.
Alors ce petit texte de Valère Novarina, de quoi il s'agit? C'est quoi le...
Alors Novarina, c'est un auteur que j'ai découvert, enfin en tout cas que voilà, avec qui... j'ai matché, si on peut dire, il y a assez longtemps. C'est vraiment, à mes yeux, un grand héritier du surréalisme. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le convoquer ici. Là, ce sera un extrait, je ne sais pas s'il faut en dire trop, mais bon, de son œuvre la plus connue, L'Acte Inconnu, d'ailleurs.
Mais pourquoi tu dis que ça te fait penser au surréalisme, toi? Parce que c'est quoi? C'est une agglomération de mots, de paroles comme ça, côte à côte?
Parce que déjà, il a un rapport au langage qui est vraiment particulier. Le surréalisme joue sur la déconstruction d'un poème tel qu'on va le connaître habituellement, une forme classique, une narration typique avec un personnage qui va passer par des épreuves ou des révélations. Le surréalisme essaye de dire la chair des événements autrement, en réinventant le langage et son utilisation. Et Novarina fait vraiment le même travail au niveau scénique, mais au niveau de la parole que va prendre l'acteur. Il propose à l'acteur une autre manière d'incarner au plateau. Vraiment en faisant fi de toute idée de personnage, de cohérence dramatique. Voilà, c'est vraiment, c'est presque des mots qui prennent chair au plateau. Et donc, je trouvais ça vraiment intéressant que Jean-Marc, chanteur et acteur, puisse interpréter cet extrait.
Et là, le texte que t'as sorti, là, devant toi, tu vas l'incarner de sous quelle forme? Alors, si c'est pas un acteur, une actrice en chair et en os, et en quoi? Vous allez les transformer en quoi, là?
Alors, en fait, l'idée, c'est que, donc, le 24, donc, il y a une projection d'un chien andalou de Buñuel et de Entracte de René Clair. Il y aura une petite présentation par Philippe Di Folco, qui est à la fois un grand spécialiste de cinéma, un des co-scénaristes de Mathieu Amalric, et aussi quelqu'un qui vit rue Mouffetard, qui fait partie du Mouffetard Canal Historique. Donc lui, il fera une présentation assez sérieuse sur surréalisme et cinéma. Ensuite, il y a les projections. Et nous, ensuite, on va faire un attentat surréaliste, quoi. Je pense que je peux le dire, parce que statistiquement, bon, j'espère que si des gens viennent en sachant, c'est encore plus drôle. Mais voilà, l'idée, c'est que le public ne saura pas ce qu'on va faire. On va truffer la salle de différents d'amis à nous qui vont scander du Novarina. Et nous, sur scène, on va jouer une petite scénette. Donc où moi, mon personnage s'appelle Raymond Lamatière, le professeur Raymond Lamatière.
Voilà. Chouette. Et Fanette, là.
Alors moi je ferai un petit extrait de La Machine à dire beaucoup.
La Machine, Fanette La Machine alors?
La Machine à dire beaucoup, exactement, qui est une ironie sur notamment le monde des médias et la parole presque mécanique qu'ont les chaînes d'information en continu, etc., de nous bombarder comme ça de mots qui veulent plus vraiment dire grand chose.
Avec des accents aussi, et là c'est le drame.
Exactement. Un petit air comme ça de note d'information.
Note d'information. Et alors on t'écoute, on t'entend?
Dans cet extrait?
Là, maintenant, tout de suite?
Oui, alors là, je n'ai pas La Machine à dire beaucoup, malheureusement, mais je vais vous faire un extrait de un poème d'Henri Michaud qui est très directement lié à Novarina.
J'adore Michaud.
La paresse. L'âme adore nager. Pour nager, on s'étend sur le ventre. L'âme se déboîte et s'en va. Elle s'en va en nageant. Si votre âme s'en va quand vous êtes debout ou assis, ou les genoux ployés ou les coudes, pour chaque position corporelle différente, l'âme partira avec une démarche et une forme différente. C'est ce que j'établirai plus tard. On parle souvent de voler. Ce n'est pas ça. C'est nager qu'elle fait. Et elle nage comme les serpents et les anguilles, jamais autrement. Quantité de personnes ont ainsi une âme qui adore nager. On les appelle vulgairement des paresseux. Quand l'âme quitte le corps par le ventre pour nager, il se produit une telle libération de je ne sais quoi. C'est un abandon, une jouissance, un relâchement si intime. L'âme s'en va nager dans la cage de l'escalier ou dans la rue, suivant la timidité ou l'audace de l'homme, car toujours, elle garde un fil d'elle à lui. Et si ce fil se rompait, il est parfois très ténu, mais c'est une force effroyable qu'il faudrait pour rompre le fil, ce serait terrible pour eux, pour elle et pour lui. Quand donc elle se trouve occupée à nager au loin, par ce simple fil qui lie l'homme à l'âme, s'écoule des volumes et des volumes d'une sorte de matière spirituelle, comme de la boue, comme du mercure, ou comme un gaz. Jouissance sans fin. C'est pourquoi le paresseux est indécrottable. Il ne changera jamais. C'est pourquoi aussi la paresse est la mère de tous les vices. Car qu'est-ce qui est plus égoïste que la paresse ? Elle a des fondements que l'orgueil n'a pas. Mais les gens s'acharnent sur les paresseux. Tandis qu'ils sont couchés, on les frappe, on leur jette de l'eau fraîche sur la tête. Ils doivent vivement ramener leur âme. Ils vous regardent alors avec ce regard de haine que l'on connaît bien et qui se voit surtout chez les enfants.
Ouais, super. C'est
bravo.
Et ce texte, on le donc c'est dans un autre moment que vous allez déclamer ce texte. C'est quoi l'idée?
Alors en fait, c'est que avec Fanette, donc on a plusieurs projets. Donc on travaille sur Quartier Lapin. Elle m'a rejoint sur ce projet-là, mais ouais. On a un projet de plus longue haleine sur un spectacle dans lequel on aimerait faire résonner Henri Michaud, Le Roseau et René Char, Le Chêne. L'idée, c'est de confronter ces deux auteurs qui ont quand même pas mal de points communs et en même temps énormément de différences, un énorme contraste dans l'endroit d'où ces gens-là écrivent. Mais en même temps, ils se retrouvent vraiment sur quelque chose, sur l'absurdité du monde. Ce sont deux très très grands poètes surréalistes. Donc l'idée, c'est de les confronter. Donc le spectacle s'appellera Michaud, Michard. Puisqu'évidemment, un Lagarde et Michaud, des Lagarde et Michard, non? Non, l'inverse, enfin peu importe.
Merci Fanette, merci Jean-Marc, le chanteur de la rue Mouffetard, merci Lydie du collectif Les Dévalideuses, et merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au micro de Jack. C'était Le Moment, une émission présentée par toute l'équipe du Moment et diffusée en ce moment même.
Vous pouvez retrouver les bonnes résolutions sur le site des Dévalideuses. Et pour en savoir plus, on vous invite à écouter le podcast Au Boulot de Marguerite pour plus d'informations. Et dans mon actualité, je vous invite à écouter Page 404, un nouveau podcast littéraire qui arrive sur les ondes du moment en janvier. Cette émission a été réalisée avec des doigts de fée par Emmanuel Demisco.
Le replay sera disponible sur lemoment.org et vous pourrez même lire la transcription, parce que oui, c'est une émission qui se veut accessible.
Vous pouvez aussi nous laisser un message au 07 74 88 38 91. J'ai l'impression de faire le numéro du Père Noël. Je vous le redis, le 07 74 88 38 91. Laissez-nous des messages. On a besoin d'anecdotes.
C'est le moment de vous dire merci et à la prochaine et pas avant.
Césure, à vous les studios.
Alors, vous avez réfléchi ? C'est le moment, c'est l'instant.
Rien d'autre à faire pour le moment ?
Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
C'est pas un scoop ? Je suis choqué.
Ça serait peut-être le moment dans le sens des priorités.
Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance.
Ça n'est pas le bon moment, je le redis.
Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.